explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Le temps d'un bivouac!
Savez-vous combien il y a de neurones dans le cerveau d'une abeille? Environ 1 million. À titre de comparaison, le cerveau d'un humain en compte près de 100 milliards. Mais en conclure que nous sommes 100 000 fois plus intelligents que ces insectes serait aller un peu vite en besogne. Plus les chercheurs étudient les capacités cognitives des abeilles, plus ils leur découvrent des aptitudes insoupçonnées. Cela fait maintenant plus de 70 ans que l'on sait que ces insectes ont un sens de l'orientation remarquable et peuvent communiquer la position de fleurs riches en nectar à leurs congénères en effectuant une danse. Mais depuis, on a découvert que les abeilles savaient compter, pouvaient apprendre par imitation et même innover. Les études s'accumulent et repoussent toujours un peu plus loin les limites de l'intelligence des abeilles. À tel point qu'aujourd'hui, les scientifiques cherchent à savoir si, avec leur cerveau de moins d'un millimètre cube, ces insectes ressentent des émotions, ont une conscience ou encore un sens créatif. Mathieu Liorot fait partie des biologistes qui s'intéressent à ces questions. Dans un livre passionnant intitulé « À quoi pensent les abeilles ?» aux éditions Humaine Science, il raconte ce que l'on sait aujourd'hui de l'intelligence de ces petites créatures. Cet après-midi, Mathieu Liorot nous emmène au cœur de la ruche, à la découverte des fascinantes prouesses cognitives des abeilles. Et en fin d'émission, pour notre séquence L'Aventure en direct, nous tenterons de joindre le parapentiste Guillaume Funk, qui se trouve quelque part dans les montagnes du Pakistan, dans lesquelles il s'est rendu à vélo depuis Grenoble. Claudia Bertram a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Loïs Moreau. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Comment ne pas être amoureux de cet insecte remarquable? Comment ne pas être amoureux quand on voit une telle architecture, quand on voit une telle organisation, quand on voit ce précieux nectar qui coule? Et qu'elles font pour elles, hein, qu'elles ne font pas pour nous. Ces abeilles noires, cette race d'abeilles locales, eh bien, elle s'inscrit totalement dans nos Cévennes et elles sont à part entière une identité du peuple cévenol.
Bonjour Mathieu Liorot.
Bonjour.
Nous ouvrons notre bivouac dans les Cévennes avec un berger apiculteur, Stéphane Libéry, fier et émerveillé par ses abeilles. C'était un extrait d'un documentaire de François Chaillet diffusé sur Arte. Mathieu Liorot, il y a peu d'insectes auxquels les humains soient autant attachés que les abeilles.
Ah oui, effectivement. Et puis de plus en plus, la cote de popularité des abeilles augmente.
Oui, ouais, ça ne se dément pas. Et là, en l'occurrence, il s'agissait des abeilles noires, hein, ces abeilles que l'on trouve dans les Cévennes. C'est une sous-espèce des abeilles domestiques, l'abeille noire?
Oui, alors c'est une race, enfin, on peut employer les mots qu'on veut. Elle fait partie de cette abeille européenne, Apis mellifera, qu'on a domestiquée il y a plusieurs millénaires. Et qui est principalement à l'état domestiqué, mais il reste des populations qui, a priori, n'auraient pas été domestiquées, dont fait partie l'abeille noire.
Alors, nous allons parler des abeilles de façon générale dans cette émission, sans toujours préciser l'espèce, mais il existe de très nombreuses espèces d'abeilles, en réalité.
Alors, on ne sait pas exactement combien, mais on en a décrit au moins 20 000 sur Terre.
Ouais, c'est ça, 20 000, et toutes ne font pas du miel.
Alors, la très grande majorité ne stocke pas de miel, effectivement. Ouais. La grande majorité sont également solitaires, donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et puis, souvent, elles sont toutes petites, ces abeilles.
Oui, c'est ça. Il y a 8 espèces en tout qui font du miel, c'est ça, ou un peu plus?
Alors, du miel qu'on consomme, donc du miel en quantité, il y en a une douzaine.
Oui, c'est ça, une douzaine. Alors, une abeille qui sort de son nid ou de sa ruche pour la première fois, comment découvre-t-elle son environnement?
Alors, c'est tout un processus. Hein. Il faut vous imaginer que... Essayez de vous mettre à la place d'une abeille.
Ouais.
Vous avez vécu toute votre enfance à l'état larvaire, déjà, dans le noir, dans un nid, dans une ruche. Et puis, à un moment donné, quand vous devenez adulte, suffisamment âgé pour aller butiner, il va falloir sortir de cette ruche. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est apprendre à voler. donc ce qui n'est pas a priori une mince affaire. Donc les abeilles font plusieurs vols comme ça, où elles tentent d'explorer l'environnement. Elles vont pas très loin, puis elles ramènent surtout rien à manger. Mmh. Et puis au bout de quelques-uns de ces vols d'apprentissage...
En fait, hein, vols d'essai.
Exactement, des baptêmes de l'air. Ouais. Bien, les abeilles vont partir à l'exploration et elles vont devoir là apprendre à se repérer.
Ouais.
Donc, à apprendre à reconnaître l'emplacement de leur nid. Donc, ça passe par des photos qu'elles prennent, des images visuelles qu'elles gardent en tête. Et puis, elles vont aller comme ça de plus en plus loin, aller à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Mmh. Et puis, à un moment donné, elles vont commencer à localiser des fleurs.
Ouais. Mais ça, c'est absolument fascinant de voir comment elles se repèrent. Vous dites qu'elles prennent des photos, donc avec leurs yeux et dans leur cerveau, mais elles arrivent à identifier des points de repère, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences très précises en mettant à certains endroits autour du nid des couronnes de pommes de pin, par exemple. Et à partir de ce moment-là, les abeilles utilisent ces points de repère pour s'ancrer dans le paysage, en quelque sorte.
Tout à fait. Alors là, vous faites référence à une vieille expérience qui est extrêmement, que je trouve extrêmement... élégante et intelligente, où effectivement, le chercheur, en l'occurrence Nicolas Tinbergen, qui a eu un prix Nobel, hein, pas que pour cette expérience-là, mais pour son travail sur le comportement animal en général, a eu l'idée de mettre des pommes de pin à l'entrée d'un nid d'une abeille fouisseuse, donc une petite abeille solitaire. Et puis, lorsque l'abeille partait chercher de la nourriture, il a décalé la couronne de pommes de pin. Mmh. Si bien qu'il a pu voir que l'abeille ne cherchait pas l'entrée du nid, mais elle cherchait la couronne de pommes de pin pour localiser le nid. Ouais. Et donc, de cette façon, il a réussi à leurrer les abeilles et à leur faire faire un peu n'importe quoi.
Oui, c'est ça. En tout cas, de les orienter, de les désorienter. Et vous-même, vous avez passé beaucoup de temps devant les ruches à les observer. Il vous est arrivé de réaliser que les abeilles vous avaient pris, vous, Mathieu Liorot, comme point de repère dans le paysage.
Alors oui, tout à fait. Et ça marche avec toutes les espèces d'abeilles qui ont un nid fixe. Hein, ouais. Si vous restez trop longtemps de manière statique autour du nid et que l'abeille vous inclut dans son image mentale de à quoi ressemble le nid, et bien à un moment donné, l'abeille va chercher à venir vers vous pour rentrer dans son nid.
Ah oui, ça peut être plutôt un inconvénient. Elles utilisent aussi, et ça c'est assez remarquable, elles utilisent le soleil pour se diriger, les abeilles.
Oui, le soleil, c'est comme pour beaucoup d'animaux, hein, c'est la boussole.
Ouais.
Donc le soleil, il a une trajectoire qui est prévisible dans le ciel. À certaines heures, il indique certains caps. Et donc les abeilles ont des yeux spécialisés. Donc c'est pas les gros yeux à facettes, hein, qu'on a tous en tête.
Ouais.
C'est trois petits yeux qui se situent au-dessus de la tête.
En plus des deux gros yeux à facettes, voilà. Elles ont ces trois petits yeux sur la tête.
Trois petits yeux simples,
ouais.
Qui sont spécialisés dans la captation de la lumière du soleil, la lumière polarisée.
Ah oui. Alors ça aussi, c'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que même s'il y a des nuages et que le soleil n'est pas, en tout cas pour nos yeux, à nous d'humains, visible, elles, grâce à ces petits yeux, ces trois petits yeux sur la tête, elles arrivent à savoir où se trouve le soleil.
Elles voient la polarisation des rayons du soleil dans le ciel, ce qui nous est complètement inconnu, ouais. Nous, mais on sait grâce à la physique que la lumière est polarisée, donc elle a une orientation.
Ouais.
Et donc ces yeux-là permettent aux abeilles de voir cette orientation, ouais. Et donc de savoir où se situe le soleil.
Mais ça pose aussi une autre question, parce que comme vous l'avez dit, le soleil, il n'est pas toujours à la même position apparente dans le ciel au fur et à mesure de la journée. Donc ça veut dire que non seulement elles se servent du soleil, mais il faut aussi qu'elles adaptent en fonction de l'heure du jour.
Alors oui, elles adaptent avec un mécanisme qui existe également chez nous, et puis chez tous les organismes qui vivent sur Terre, qui est un mécanisme d'horloge interne. Donc on a au sein de nous des mécanismes biologiques qui nous disent à peu près quelle heure il est dans la journée.
Ouais.
Et donc avec cette horloge interne, elles arrivent à savoir où va être le soleil dans le ciel, et en fait quelle heure il est, quoi.
Alors une fois qu'elles ont réussi à identifier leur chemin, trouver une source de nourriture, par exemple un lieu où il y a beaucoup de fleurs avec du nectar, eh bien une fois qu'elles sont parties en éclaireuse et qu'elles ont trouvé cet endroit, elles reviennent à la colonie et elles doivent informer leurs congénères. Approchons-nous de la ruche pour voir comment ça se passe.
Bon, voilà une butineuse qui vient de rentrer, elle est chargée de pollen et elle est en train d'informer ses congénères sur la source de pollen qu'elle a trouvée. Alors elle décrit un 8 qui indique la direction dans laquelle il faut s'envoler. Et elle frétille de l'abdomen pour indiquer la difficulté qu'elle a rencontrée au cours de son voyage.
Comment ça, elle frétille? Plus elle frétille, plus...
Ah oui, plus la danse est accélérée, plus la difficulté a été grande pour revenir. Regardez, effectivement, regardez là. Alors, vous voyez, c'est un échange d'informations, c'est ce qu'on appelle la danse des abeilles. À la fois, elle donne une direction et une intensité de difficulté.
Le chercheur Jacques Bruns décrivant la danse des abeilles sur France 3 Auvergne en 1989. Alors ça, c'est une découverte qui a marqué l'histoire de l'étude des insectes, Mathieu Liorot.
Alors des insectes et même des animaux en règle générale, hein, c'est une découverte fondatrice de l'étude du comportement animal et c'est une prise de conscience comme quoi les animaux, même les plus petits, ont des capacités cognitives, des capacités de communication qui sont remarquables. Ouais.
L'auteur de cette découverte, hein, c'est un chercheur autrichien qui s'appelle Carl von Frisch. Cette découverte lui a même valu le prix Nobel en 1973, hein, tellement c'était important comme découverte. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est-à-dire qu'avec ces mouvements du corps, l'abeille qui a trouvé la source de nourriture donne des informations d'une précision extraordinaire aux autres abeilles de la ruche qui n'ont jamais vu, qui ne savent pas où se trouve cet endroit avec les fleurs. Et uniquement en observant cette danse, elles vont être capables de trouver l'endroit.
Alors c'est ça, j'irai même un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que ce mouvement, ouais, il se produit dans le noir. Ouais. Donc dans la ruche. Et donc c'est un code qui va permettre aux autres abeilles qui vont suivre l'abeille danseuse, donc ils le suivent en contact avec les antennes, avec les pattes, de connaître la position de la source de nourriture à l'extérieur, donc à la lumière. Mmh. Et parfois cette source de nourriture, elle se situe à plusieurs kilomètres.
Ouais. C'est-à-dire qu'elle donne la direction, la distance à parcourir, et puis il y a aussi des indications pour savoir si c'est difficile ou pas pour y arriver.
Alors pas vraiment, là. Ce qu'on vient d'entendre, c'était peut-être du langage un peu daté. Mais en fait, la durée de frétillement donne une indication sur la distance.
Sur la distance. Voilà, donc c'est la distance et la direction. Voilà, et avec ça, on trouve.
C'est une localisation, en fait. Et puis, il y a aussi d'autres informations. Si l'abeille revient et qu'elle a été butinée sur des fleurs qui sentent beaucoup, elle, ouais, porte cette odeur sur elle. Et donc, c'est également une information olfactive qui va être transmise aux autres abeilles.
Mais toutes les abeilles de toutes les espèces dansent ou pas ?
Alors, pas du tout. C'est quelque chose qui est très spécifique aux abeilles à miel. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. La petite dizaine d'espèces qui produit du miel et qui va, en fait, avoir besoin d'énormément de nourriture pour nourrir des très grosses colonies. Ouais. Et donc, ce système de danse, c'est un système de recrutement qui va permettre aux abeilles d'aller en masse,
et oui,
piller toute la nourriture, ouais, qui est disponible.
Mais c'est une danse universelle, c'est-à-dire qu'elles ont ça intrinsèquement dans leur génome, elles savent comment communiquer, ou c'est un apprentissage, il y a des cultures, des dialectes, selon dans quelle colonie, dans quelle espèce on se trouve.
Alors, il y a un peu des deux, hein. C'est comme pour tous les comportements animaux, il y a souvent une base génétique innée, ouais, et puis après, ça change en fonction des cultures, des apprentissages. Donc, on sait qu'une abeille domestique, disons une abeille française, va pouvoir danser sans avoir jamais vu d'autres abeilles danser. On va y avoir une danse qui va être produite. Par contre, cette danse va être très peu précise. Mmh. Donc, l'abeille n'ira pas tout droit, elle va faire des zigzags, et donc l'information qui va être transmise va être peu précise. Mmh. Mais au fur et à mesure que cette même abeille va danser, elle va s'entraîner et devenir de plus en plus précise. Mmh. Si bien qu'à la fin de sa vie, on aura une abeille extrêmement précise.
Elle va peaufiner sa chorégraphie.
Elle va apprendre à danser.
Ouais. Mais alors, il y a aussi une expérience, alors là, c'est beaucoup plus récent, hein, ça n'est pas dans votre ouvrage, parce que c'est très récent. On s'est rendu compte que les abeilles s'appliquaient plus, en tout cas faisaient leur chorégraphie de façon plus précise, quand il y avait beaucoup d'abeilles qui les regardaient et quand les abeilles qui les regardaient n'étaient pas des juvéniles qui allaient rester au nid, mais que c'était des butineuses qui étaient susceptibles d'y aller. Donc ça veut dire que pour bien danser, une abeille doit avoir un public fourni et intéressé.
C'est exactement ça. Alors, on peut le formuler comme ça, on peut aussi formuler plus simplement. En fait, la danseuse, donc celle qui va donner l'information, va chercher des individus à qui transmettre cette information. Oui. En fait, s'il n'y a personne pour l'écouter, elle va dévier son mouvement pour aller au contact des individus. Et donc, en déviant son mouvement, la danse qu'elle est en train de produire, elle va zigzaguer, elle va être moins précise.
Il y a aussi cette idée, alors je l'ai dit un peu simplement en introduction en disant « les abeilles savent compter ». C'est un peu plus aussi subtil que ça, mais quand même, c'est assez étonnant de voir à quel point elles peuvent se figurer des nombres et des quantités.
Oui, alors ça, c'est des travaux qui vont faire partie de... On va certainement parler après de toute cette zone grise où on, voilà, c'est une recherche qui est florissante, ouais. qui avance vite, et des fois, on ne sait pas vraiment où on va. Donc, l'idée de faire apprendre à compter à des abeilles, c'est des idées de psychologie humaine. Mmh. Voilà, c'est assumé. Hein, c'est des collègues qui font ça. Et donc, ils montrent que les abeilles, effectivement, ont un sens de la numérosité, le sens des quantités. Ça ne veut pas dire qu'elles savent lire les nombres.
Bien sûr, évidemment. Voilà. Mais tout de même, des expériences assez étonnantes où on met plusieurs tentes entre l'endroit qu'elles doivent atteindre et l'endroit d'où elles partent. Elles ont appris qu'il y avait quatre tentes, comme quatre bornes sur leur chemin. Si on espace les tentes, si on n'en laisse plus que trois, elles vont dépasser la limite. C'est un peu là, du même ordre que les pommes de pin. C'est-à-dire que, comme si elles avaient enregistré qu'avant leur nid, il fallait qu'elles aient passé quatre tentes. Et ça veut dire, d'une certaine manière, elles ont compté ces quatre tentes.
Voilà, donc sur leur chemin, elles prennent des photos, pour reprendre l'expression que j'ai prise tout à l'heure, elles prennent des photos, elles prennent des repères visuels et elles doivent, à chaque fois, si elles retournent au même endroit, utiliser le même parcours et donc passer devant ces mêmes repères visuels.
Et puis aussi avec des signes, hein, on leur montre des petites figures, elles associent un certain nombre de petites figures, de petits symboles à une récompense. Et on voit bien qu'elles savent faire la différence entre beaucoup de symboles et pas beaucoup de symboles. Elles ont une notion du plus grand que, plus petit que.
C'est ça. Donc ça, c'est des expériences assez étonnantes hein, qu'on peut réaliser en laboratoire, où on présente à des abeilles dans un labyrinthe en Y, enfin un labyrinthe à deux branches, des images avec plus ou moins de points, plus ou moins de symboles. On fait varier les symboles. Des fois, on utilise des carrés, des rectangles, voilà, tout ce qu'on veut. Ouais. Et on voit que les abeilles apprennent des règles. Elles vont trouver de la nourriture si elles vont du côté où il y a le plus de symboles.
Ouais.
Ou alors si elles vont du côté où il y a le moins de symboles.
Ouais. Et ça, elles en sont capables. En fait, plus on étudie ces insectes et plus on repousse les limites de leur intelligence.
Exactement. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que toutes les semaines, quasiment, on a des résultats assez étonnants sur les capacités cognitives des abeilles, mais pas que, hein, des insectes hein, ou des invertébrés en règle générale, qui nous perturbent un petit peu, nous, en tant que chercheurs.
Ouais, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le temps d'un bivouac au cœur de la ruche à la découverte de l'intelligence des abeilles avec le spécialiste des insectes, Mathieu Liorot. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter. C'était Le Roi Soleil, chanté par Miel de Montagne. Oui, oui.
Sur France Inter, Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ah oui. Elle est belle, hein?
Tiens, elle est mieux.
Oui, elle est belle.
Et la reine, elle est là.
Oui, la reine est là. Ouais. Magnifique. Un gros dondon. C'est un univers que l'on découvre chaque fois. Et tu as vu cette construction, hein? On pourrait se croire dans un autre univers, tu sais, une autre galaxie.
Ça, c'est l'abeille Melipona bichii, qui est l'abeille traditionnelle des Mayas. Ces abeilles-là sont très différentes des nôtres. D'abord, comme elles n'ont pas de dard, elles piquent pas. Elles ont les yeux bleus.
Elles construisent comme des pyramides leur couvain. Et puis elles mettent autour leur stock de pollen et leur stock de miel.
Quelle harmonie, c'est un monde féminin. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien.
Nous étions au Mexique avec l'apiculteur Roque Domérego. C'était un extrait d'un reportage du JT de France 2 de 2018. Dès qu'on change de continent, on peut être surpris par l'allure et les comportements des abeilles que l'on croise. Mathieu Liorot, vous le spécialiste des abeilles, il vous est arrivé d'être surpris par les spécimens que vous rencontriez sur votre route lorsque vous voyagiez ?
Ah, tout le temps, moi je suis surpris d'un rien. Donc,
ah oui, il ne faut pas grand-chose.
Même à Paris on peut compter 350 espèces d'abeilles hein, quand même, intramuros.
Ah oui, ouais. Qui sont dans les parcs, qui sont dans les recoins, les interstices de la ville.
Exactement, dans les murets, dans les pavés, ouais. Un peu partout dans les parcs. Bref, mais aussi on va un peu plus loin que Paris, effectivement, ça m'est déjà arrivé très récemment là. D'être surpris de passer des heures devant une espèce d'abeille que j'avais découvert pour moi-même, hein, bien sûr qu'elle est connue cette espèce. C'est un travail que je réalisais au Japon où j'essayais de faire un inventaire des abeilles sauvages pour pouvoir les étudier plus tard. Donc les abeilles sauvages qu'il y avait au mois de mai dans la région de Fukushima, peut-être on en reparlera tout à l'heure. J'étais très surpris parce que j'ai vu une grosse abeille qui m'est familière, hein. C'est une grosse abeille charpentière, donc on en a plein ici en France, c'est les premières abeilles qui émergent au mois de mars, c'est des grosses abeilles qui ressemblent à des bourdons, qui ont les ailes violacées. Mmh. Bon, cette abeille-là, japonaise, elle avait la même allure, sauf qu'elle était jaune. Sauf que cette abeille-là, elle s'est mise à m'attaquer quand je me suis approché d'elle, mais pas pour me piquer, juste, elle voulait vraiment me taper.
Ouais.
Donc elle a fait plusieurs fois, je suis parti en courant plusieurs fois, et puis je suis revenu par curiosité.
Ouais.
Et j'ai vu que ce comportement que je ne connaissais pas, en fait, c'était un comportement territorial. Et en fait, il s'avère que chez cette espèce, on a des mâles qui gardent un territoire, qui pour certainement attirer des femelles, et que n'importe quelle chose qui s'approche de ce territoire se fait dégager.
Alors c'est souvent en laboratoire que vous testez les capacités cognitives des abeilles, pour que ce soit en conditions contrôlées, évidemment. Et vous travaillez beaucoup sur les bourdons. Alors ça vaut peut-être quand même la peine de rappeler que les bourdons, ce ne sont pas les mâles des abeilles.
Alors là, on a un problème de français, effectivement. Ouais. On utilise le même mot pour dire deux choses différentes. Donc, chez les abeilles domestiques, dont on a parlé tout à l'heure, qui produisent beaucoup de miel,
ouais.
Le mâle, on a tendance à l'appeler le faux bourdon.
Ouais.
Mais les bourdons, ça regroupe, ça désigne un ensemble d'espèces d'abeilles. Et vous les connaissez, ces bourdons sont des grosses abeilles velues qui sont très communes en France. Il y a plusieurs dizaines d'espèces en France de bourdons.
Donc ces bourdons, ces grosses abeilles velues, ce sont des abeilles et pas forcément des mâles. Il y a des bourdons mâles et femelles. Et vous aimez bien travailler, vous les chercheurs en général, sur ces bourdons qui vivent en plus petites colonies, qui sont assez facile à étudier en laboratoire, et vous menez des expériences qui sont assez fascinantes sur ces bourdons. Déjà, on se rend compte que l'apprentissage est quelque chose d'assez facile. On peut apprendre à des bourdons à résoudre des casse-têtes assez compliqués où ils doivent tirer sur des petites cordes pour obtenir, ouvrir une trappe, puis obtenir de la nourriture.
Oui, alors la chance qu'on a de travailler avec les bourdons, c'est qu'effectivement, ils sont coopératifs.
Oui.
Donc, dans un laboratoire, ils se comportent bien. Avec de la lumière artificielle, ils ne sont pas trop dérangés.
Oui.
Il faut bien sûr les nourrir et en prendre soin. Mais effectivement, en reliant des colonies de bourdons, donc des nids de bourdons, à des arènes en plastique, des grandes arènes en plastique dans lesquelles les bourdons peuvent voler et obtenir de la nourriture, on peut faire résoudre des problèmes un peu particuliers aux bourdons. bourdon, comme vous l'avez dit, tirer des cordes pour tirer une plateforme avec de l'eau sucrée dessus, donc une récompense, ou pousser une balle dans un trou pour obtenir une récompense.
Ouais.
Alors, on ne fait pas simplement s'amuser, on fait pas que s'amuser avec, ouais, avec les insectes, bien sûr, on pose des questions importantes, ouais, derrière, qui sont notamment quelles sont les limites de cette intelligence, quelles sont les limites de la capacité des insectes à résoudre des problèmes, ouais, qui, il y a encore 10-15 ans, on ne se posait pas ce type, ouais, de questions.
Et vous vous rendez compte qu'ils sont capables d'apprendre par mimétisme, c'est-à-dire qu'un bourdon auquel on a appris à faire quelque chose, il peut l'apprendre à un autre bourdon, enfin surtout un autre bourdon en l'observant faire, peut lui-même apprendre ce qu'il a appris. Vous êtes aussi capable, et ça c'est assez étonnant, de façon générale, hein, vous les chercheurs, de déterminer qu'un bourdon peut être d'humeur changeante. Vous avez établi qu'il y avait des bourdons de bonne humeur et parfois de moins bonne humeur.
Oui, c'est ça, une des questions un peu chaudes actuellement, au-delà de simplement l'apprentissage et la mémoire chez ces insectes qui commencent à être bien caractérisés, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà, comment ces insectes perçoivent le monde, y a-t-il une subjectivité du monde,
ouais.
Donc, la subjectivité
vaste
du monde...
Vaste question, hein. Vaste question d'établir ça, déjà, chez un congénère humain, mais alors, chez un bourdon ou une abeille.
Exactement, donc la stratégie ici, c'est de prendre des protocoles expérimentaux, donc des expériences qu'on réalise chez des chimpanzés, en gros, nos cousins, et de les transposer à des animaux qui ne sont pas des chimpanzés. Dans ce cas-là, c'est des tout petits bourdons. L'idée de ces premières expériences sur la présence d'émotions chez les insectes, c'est qu'on a transposé le paradigme de est-ce que le verre d'eau est qui est rempli à la moitié, est à moitié vide ou à moitié plein. Il n'y a pas de bonne réponse, mais l'animal va nous donner une réponse qui va refléter son état émotionnel, si on est pessimiste ou optimiste. Donc là, l'expérience consistait à faire apprendre à un bourdon que s'il allait butiner sur une fleur artificielle, donc une fleur en carton bleu, il allait avoir une récompense. S'il allait sur une fleur jaune, il n'allait pas avoir de récompense. Donc ça, le bourdon l'apprend très bien. Mmh. Et puis après, on donne au bourdon une fleur turquoise qui n'est ni jaune ni bleue, donc il n'y a pas de bonne réponse. Mmh. Et puis on regarde s'il y va, s'il n'y,
oui,
va pas, etc.
En fait, cette fleur d'une couleur intermédiaire, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. S'il y va, c'est qu'il voit la fleur à moitié pleine.
Exactement.
S'il n'y va pas, c'est qu'il la voit à moitié vide. Donc on peut juger si ce bourdon est optimiste ou pessimiste. Et ce qui est, alors, il y a aussi une autre étude qui est absolument fascinante, c'est qu'un bourdon de bonne humeur, donc plutôt de tempérament optimiste, si on le met en présence d'un autre bourdon d'humeur neutre, on va dire, eh bien, il va lui transmettre sa bonne humeur. La bonne humeur est contagieuse chez le bourdon.
Chez le bourdon, et puis pas que chez les bourdons.
Oui, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que, en règle générale, chez les animaux sociaux qui vivent en société, les émotions ont bien sûr un rôle individuel. Ça va permettre de moduler le comportement individuel, mais ça va également permettre de moduler les interactions sociales.
Ouais.
Et donc, on sait très bien que la bonne humeur est contagieuse dans les groupes humains, et à l'inverse, la mauvaise humeur l'est aussi.
Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on le sait dans les groupes humains, dans les groupes de singes, mais cette découverte sur la bonne humeur transmissible des bourdons, elle a quand même fait une de la prestigieuse revue Science, parce que c'est une découverte, c'est la première fois que l'on voit cette contagion affective chez un invertébré.
Exactement, et toutes ces recherches sont rendues possibles grâce au bourdon, en fait, parce,
ouais,
que c'est un invertébré qui est coopératif et qu'on commence à connaître très 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 bien.
Et puis alors, dans la ruche, dans les nids, il y a la reine. Alors comment se faire accepter comme reine par tout le reste de la colonie? Je vous propose d'entendre à ce sujet un extrait de la série documentaire « Les secrets des abeilles » réalisé par James Cameron et qui est récemment sorti sur Disney+.
Voici peut-être la nouvelle reine. Elle fait savoir à toute la colonie qu'elle est prête à régner, en communiquant d'une manière qui lui est propre. Elle chante. Le son se propage à travers les parois du rayon. À chaque nouveau chant, les ouvrières cessent toute activité, en signe de déférence envers leur nouvelle reine. Depuis leur cellule, ses rivales répondent par un chant plus grave, pour signaler à la reine fraîchement émergée qu'elle a de la concurrence. Afin d'asseoir son autorité, elle doit rapidement quitter la ruche pour s'accoupler. Si la fécondation échoue, les autres reines vierges auront leur chance. En attendant, Les nourrices les calment à grand renfort de nourriture et de douces vibrations. Si la fécondation réussit, la nouvelle reine tuera ses rivales emprisonnées dans leurs cellules.
Extrait du documentaire « Les secrets des abeilles » réalisé donc par James Cameron. Alors, ce chant des reines, vous n'en parlez pas, vous, hein, Mathieu Liorot, dans votre excellent livre « À quoi pensent les abeilles ?» Mais justement, j'avais envie de vous demander une expertise, en quelque sorte. Parce que là, moi, j'avais jamais entendu ça. On dirait presque qu'elles font des bruits d'otaries, ces reines chez les abeilles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on extrapole un peu dans ce documentaire? Situez-nous un petit peu ce que dit la science à ce sujet.
Bon, ouais, je pense que si James Cameron avait été venir filmer dans mon laboratoire, on n'aurait peut-être pas eu cette séquence.
C'est clair.
Disons qu'effectivement, des sons ont été enregistrés dans les ruches, et il y a des sons qui sont caractéristiques des reines, qui n'ont pas la même morphologie que les ouvrières. Après, la fonction de ces sons est très largement méconnue. Ouais. Donc là, on est plutôt dans l'anthropomorphisme et la romance.
Donc on ne sait pas encore si c'est grâce à ces vibrations sonores qu'elles communiquent. Vous, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est qu'effectivement, la reine émet, mais ce sont plutôt des odeurs, des molécules, pour se faire comprendre et puis pour manipuler un peu les ouvrières pour qu'elles prennent soin d'elles.
Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est général aux insectes, hein. La communication elle passe avant tout par les odeurs. Mmh. Chez les abeilles, on a identifié, les scientifiques, les collègues ont identifié à peu près une centaine de phéromones, donc de bouquets d'odeurs qui ont des fonctions. Chacune. Et il y a une phéromone qui est très particulière, qui est la phéromone royale, on va l'appeler comme ça, qui est la phéromone qui est uniquement portée par la reine. Et en fait, lorsque les autres abeilles perçoivent cette phéromone, ça veut dire qu'il y a une reine dans la colonie. Mmh. Et donc, par exemple, ces abeilles ne vont pas développer d'ovaire, donc ne vont pas se reproduire, puisqu'il y a déjà une reine.
Ouais. Et puis, il y a cette molécule aussi, vous dites, qui anesthésie un peu les comportements agressifs que pourraient avoir les ouvrières. C'est une façon un peu d'amadouer ces troupes, quoi.
Ça permet la cohésion sociale, d'une certaine façon.
Oui, on peut le voir comme ça. Et sur l'odorat des abeilles, vous racontez aussi des choses assez étonnantes, c'est-à-dire qu'on peut dresser en quelque sorte des abeilles pour renifler certaines odeurs, comme on le fait avec des chiens renifleurs.
Alors oui, donc les abeilles sont vraiment spécialisées dans ces communications olfactives. Elles sont spécialisées également dans le butinage, et qui implique énormément l'apprentissage d'odeurs. Elles ont quelques attractions innées pour certaines odeurs, comme le géranium, enfin les composés les odeurs de géranium. Mais une abeille peut apprendre à associer n'importe quelle odeur avec une récompense d'eau sucrée.
Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire détecter des explosifs à des abeilles.
Oui, c'est ce qui a été fait notamment par l'armée israélienne à une certaine époque.
On peut faire détecter une maladie, le Covid, par des...
A priori, oui, comme ça a été fait avec des chiens.
Ouais, mais alors c'est assez étonnant, mais c'est plus expérimentalement étonnant. Bon, même si apparemment l'armée, des armées ont pu le faire, mais c'est pas très rentable parce que une abeille ça vit pas très longtemps. Donc une abeille qui a appris à renifler, on s'en sert pas très très longtemps.
Non, hein, quelques heures tout au plus. Et puis il en faut beaucoup parce qu'il y a des erreurs. Hein. Toutes les abeilles ne sont pas aussi performantes dans l'apprentissage et la reconnaissance des odeurs.
Mmh. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les abeilles sont capables de faire toutes ces prouesses. Puis on en verra quelques autres encore, avec ce cerveau minuscule. Hein. Je le disais en introduction, un petit peu moins d'un million de neurones, c'est même pas un millimètre cube, hein, la taille de ce cerveau. Et pourtant, elles ont déjà un grand nombre d'aptitudes cognitives. À quoi ressemble leur cerveau exactement ?
Alors, le cerveau d'une abeille, bon, si on le regarde en 3D, c'est un grain de lentille qui est déshydraté, donc c'est à peu près cette taille-là, c'est un volume qui a à peu près cette forme elliptique. Et puis, si on regarde de plus près, on va avoir plutôt enfin, moi j'aime dire que c'est un papillon, donc on a les grandes ailes du papillon qui délimitent, à l'extrémité on va avoir les zones plutôt visuelles, donc derrière les yeux composés, et puis au centre de ces grandes ailes, on a le corps du papillon avec les zones qui sont impliquées dans le traitement des mouvements, les zones qui sont impliquées dans le traitement des odeurs.
Ouais. Donc elles ont des aires cérébrales comme nous. Finalement elles ont un cerveau, bon, beaucoup plus petit, mais pas si différent au niveau de l'organisation que le nôtre.
Ah oui, mais j'irai même plus loin. C'est les neurones sont les mêmes. Donc ouais. En fait, les cellules qui constituent leur cerveau sont les mêmes que nous. Bien sûr, ils sont beaucoup plus petits. Mmh. Ils fonctionnent de la même façon et sont organisés. Alors, la morphologie du cerveau est différente, mais le fonctionnement, il est de la même nature.
Mmh. C'est ce qui fait que vous en venez à vous demander si les abeilles ont des sentiments, des émotions, une personnalité. Vous allez nous dire, Mathieu Liorot, ce que les dernières découvertes disent à ce sujet dans la suite de ce temps d'un bivouac consacré aux abeilles. C'était Yemaya, chanté par Mélissa Lavaux sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
L'essaim reste suspendu à la branche jusqu'au retour des ouvrières qui font office d'éclaireuses et qui, dès les premières minutes de l'essaimage, se sont dispersées dans toutes les directions pour aller à la recherche d'un logis. Une à une, les éclaireuses reviennent et rendent compte de leur mission. Et puisqu'il nous est impossible de pénétrer la pensée des abeilles, il faut bien que nous interprétions humainement le spectacle auquel nous assistons. Il est donc probable que l'essaim écoute attentivement les rapports des éclaireuses. L'une préconise apparemment un arbre creux, une autre vante les avantages d'une fente dans un vieux mur, d'une cavité dans une grotte ou d'un terrier abandonné. Il arrive souvent que l'assemblée hésite et délibère jusqu'au lendemain matin. Enfin, le choix se fait et l'accord s'établit. À un moment donné, toute la grappe s'agite, fourmille, se désagrège, s'éparpille, et d'un vol impétueux et soutenu qui cette fois ne connaît plus d'obstacles, par-dessus les haies, les champs de blé, les champs de lin, les meules, les étangs, les villages et les fleuves, le nuage vibrant se dirige en droite ligne vers un but déterminé et toujours très lointain. Il est rare que l'homme puisse le suivre dans cette seconde étape. L'essaim retourne à la nature et nous perdons la trace de sa destinée.
La voix de Jean-Claude Amezen, grand amoureux des abeilles, qui résonne dans le temps d'un bivouac, et c'est un plaisir de l'entendre. Jean-Claude lisait un extrait de « La vie des abeilles » de l'écrivain belge Maurice Maeterlinck, publié en 1901. Aujourd'hui, Mathieu Liorot, on en sait un peu plus sur la façon dont les abeilles décident collectivement du déplacement de leur essaim. elle vote. Expliquez-nous ça.
Alors, effectivement, il y a un système de communication qui vient d'être décrit, où les abeilles qui ont découvert un site potentiel pour établir une nouvelle colonie reviennent sur l'essaim. Et à ce moment-là, elles vont faire la danse qu'on a décrite tout à l'heure.
Sauf que là, elles sont en plein jour, elles le font à l'air libre.
Elles le font sur la grappe d'abeilles, donc elles le font à l'air libre. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu comme si elles pointaient du doigt directement l'emplacement de ce site. Et donc ça va faire que les abeilles qui suivent cette danse vont être recrutées et vont aller voir par elles-mêmes ce qui se passe là-bas. Et si ces abeilles individuellement jugent que le site est vraiment bien, elles vont revenir à leur tour et danser pour le même site. Ouais. Et donc on va avoir un système d'emballement comme ça.
Et oui.
Sauf qu'il va y avoir potentiellement plusieurs abeilles qui vont danser pour des sites différents et donc plusieurs groupes d'abeilles qui vont danser pour des groupes différents.
Donc finalement c'est à la majorité en fait, parce que celles qui reviennent et qui ne dansent pas, qui n'ont pas été convaincues par le site qu'elles ont exploré, eh bien le nombre est moins important que celles qui, tout en nombre, se mettent à danser.
Tout à fait, et il y a un système qui est crucial pour que ça marche aussi, c'est que certaines abeilles vont interférer avec la danse des autres.
C'est-à-dire
qu'elles vont empêcher les autres de danser, tellement elles sont convaincues que leur site est meilleur.
Ah oui, d'accord, donc c'est de la démocratie, mais un peu combative quand même. Il y a du débat en plus. C'est intéressant parce qu'il y a cette idée qu'une colonie d'abeilles agit un peu comme un super-organisme, comme si, tout ensemble, elles étaient les cellules d'un même organisme qui est intelligent, la colonie a une intelligence. Comment vous voyez ça, vous ?
Bah, c'est comme vous venez de le décrire. En fait, là, chaque individu va être une cellule, disons, de cet organisme et va acquérir de l'information et partager surtout cette information avec tout le reste de l'organisme.
Ouais.
Et donc cette information va être traitée collectivement.
Ouais. Mais ce qui est intéressant dans les nouvelles découvertes qui sont faites, c'est qu'on se rend compte qu'au-delà de cette intelligence collective, individuellement, elles ont une intelligence, et même un peu plus qu'une intelligence. C'est-à-dire que une même abeille qui en est au même stade de sa vie, qui est assignée au même rôle dans la ruche, elle ne se comporte pas exactement pareil. Comme si elle avait une marge de manœuvre, comme si une abeille avait une personnalité.
Alors oui, le concept de personnalité animale, c'est quelque chose qui est apparu il y a une vingtaine d'années et qu'on voit qu'il est partout chez tous les animaux qu'on étudie, et les abeilles ne font pas exception. Donc comme vous l'avez dit, deux abeilles qui sont élevées au même endroit, qui ont le même patrimoine génétique, vont se comporter de manière différente. Et ces comportements-là, ils sont dictés en partie par leur expérience individuelle, passée, leur subjectivité du monde, très certainement.
Elles ressentent des émotions, ces abeilles. On a parlé de la bonne humeur tout à l'heure, mais plus généralement, est-ce qu'on en vient à se dire que les abeilles ressentent des émotions?
Ben voilà, et tester l'existence de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur, ça revient à commencer à tester l'existence des émotions.
Ouais.
Il y a des expériences un peu plus récentes encore qui ont été voir du côté du plaisir ou de la douleur. Et ces deux concepts-là sont également des émotions un peu plus fortes.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut leur faire du mal à ces abeilles, notamment avec les néonicotinoïdes ou d'autres insecticides, parce que ce cerveau très perfectionné, on l'a compris en vous écoutant aujourd'hui, est aussi fragile. Comment ces pesticides, ces insecticides agissent sur le cerveau des abeilles ?
Alors les pesticides dont on parle beaucoup, les néonicotinoïdes, et puis il y en a toute une autre batterie dont on parle moins, mais qui agissent de la même façon, ce sont des neurotoxines. Donc en fait, ce sont des molécules qui agissent sur les neurones du cerveau des animaux.
Mmh.
Et donc nous-mêmes, si on buvait des néonicotinoïdes à la petite cuillère, eh bien ces molécules viendraient se fixer au mauvais endroit et viendraient interrompre le fonctionnement de notre cerveau pour nous paralyser.
Mmh.
Alors les abeilles, lorsqu'elles butinent dans des champs qui sont traitées avec ces molécules, elles boivent ces molécules en très très faible dose. Donc c'est des doses qui ne vont pas les paralyser, mais par contre qui vont affecter certains réseaux de neurones. Et comme le cerveau est tout petit, il est optimisé, eh bien, lorsque les abeilles perdent perdent certains neurones, en tout cas la capacité à activer certains neurones, elles perdent des comportements.
Alors les abeilles peuvent aussi être victimes du frelon asiatique, notamment en France, qui fait des dégâts dans les ruches. Mais au Japon, certaines abeilles ont trouvé la parade contre les frelons.
Le funeste frelon arrive. Il a repéré un creux suspect dans ce tronc d'arbre et vient l'examiner. Ces abeilles japonaises restent impassibles. Elles attendent le bon moment pour passer à l'action. Dès que l'intrus pose un pied dans la ruche, les abeilles se mettent à faire vibrer leur abdomen, comme pour faire une hola. Quand le frelon attaque sa première victime, elle fonde sur lui. Des centaines d'abeilles qui agissent à l'unisson jusqu'à recouvrir entièrement le frelon géant. Elles font vibrer leurs muscles pour générer de la chaleur. 47 degrés. Alors que le frelon ne peut pas survivre à plus de 46 degrés. Les abeilles anéantissent le frelon sans même utiliser leur dard. Leur abri est hors de danger, jusqu'au prochain attaquant, qu'elles réduiront aussi en cendres.
Extrait d'un documentaire de National Geographic daté de 2020. Ça se passe comme ça. Ces abeilles ont trouvé la façon de cuire leur ennemi, en quelque sorte.
Oui, alors là, on parle d'abeilles différentes, donc ce sont les abeilles asiatiques, et on parle de frelons différents. Okay. Ce sont des frelons, certes asiatiques, mais des frelons géants. Ouais. Peut-être que vous les avez déjà vus, ceux-là, ils sont vraiment énormes, ils peuvent faire 10 cm de long. Ces animaux-là, ils ont évolué, ils ont coévolué pendant des milliers d'années, et donc il y a une espèce de course à l'armement qui s'est produite. Les frelons sont devenus de plus en plus efficaces à attaquer, les abeilles sont devenues de plus en plus efficaces à se défendre. Donc effectivement, elles cuisent les frelons et elles les asphyxient. On ne sait pas trop.
D'accord. Bah donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'avoir cette technique-là pour se débarrasser, en tout cas du point de vue des abeilles, des frelons asiatiques.
Hein, voilà, vous m'avez compris.
Ouais, ça ne marchera pas. Bon, à quoi ça ressemblerait un monde sans abeilles ?
Bon, c'est toujours un peu compliqué à dire, mais les abeilles, au-delà du fait que ce soit des animaux très sympathiques, pour lesquels on a l'attachement, ce sont des animaux qui assurent un service écosystémique qui est fondamental, c'est-à-dire que quand elles butinent, elles vont transférer du pollen de plante en plante, et donc elles vont assurer la reproduction de ces plantes. Or, ces plantes à fleurs sont la majorité des plantes qu'on a sur Terre. Et c'est également des organismes qui sont à la base de tous les écosystèmes terrestres. Donc, en fait, on a des animaux qui viennent de se nourrir de ces plantes, dont nous faisons partie. Et puis, il y a les animaux qui viennent se nourrir des animaux qui se nourrissent de ces plantes. Donc, si on n'assure plus la pollinisation de ces plantes, eh bien, les écosystèmes tels qu'on les connaît viendraient certainement à s'effondrer. Alors, il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, mais elles assurent quand même la très grande partie de ce service.
Prenons-en soin, donc. Merci, Mathieu Liorot. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre passionnant « À quoi pensent les abeilles ?» aux éditions Humaine Science. Restez avec nous dans un instant pour notre séquence « L'aventure en direct ». Nous allons tenter de joindre Guillaume Funk, un alpiniste parapentiste qui se trouve quelque part dans les montagnes du Pakistan, où il est arrivé après un long périple à vélo. C'était Vanessa Paradis. Rendez-vous dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Dibert.
Allô, XM2, est-ce que vous m'entendez?
Ici Loup Solitaire 220, à vous.
Oui, Loup Solitaire, nous vous recevons. Quelle est votre position, à vous?
Et à 14h53, c'est le retour de notre séquence L'Aventure en direct. Nous allons tenter de joindre un alpiniste, parapentiste et documentariste qui se trouve quelque part dans les montagnes du Pakistan où il s'est rendu à vélo depuis Grenoble. Bonjour Guillaume Funk.
Bonjour.
Bonjour, il y a un petit décalage, hein, vous êtes loin. 3 heures de décalage horaire avec vous, il est 17h53 au Pakistan. Vous êtes où exactement? Décrivez-nous le paysage autour de vous.
Alors, je suis dans la vallée de Hunza, c'est dans le nord du Pakistan, dans le Gilgit-Baltistan, c'est la région. Et le paysage, il est assez aride, c'est vraiment pas les mêmes montagnes qu'en France et dans les Alpes. Le fond de la vallée est assez vert, parce qu'il y a plein d'arbres qui ont été plantés par les humains. Mais après, dès qu'on monte un petit peu, dès qu'on sort en fait du fond de la vallée, c'est que des cailloux, de la poussière. Et là, en ce moment, il y a des orages et même un petit arc-en-ciel qui juste en face de moi et qui cache un petit peu les énormes montagnes. Mais il y a 4 sommets au-dessus de 7000 mètres dans la vallée, ouais. Dont le Raka Poshi juste en face de moi, avec une des plus grandes faces du monde qui fait 6000 mètres de haut. Donc c'est assez impressionnant.
Ouais, c'est ça, hein, des très hautes montagnes que vous avez devant vous. Alors vous avez choisi de vous rendre à vélo au Pakistan. Vous êtes parti de Grenoble, hein, je le disais. Vous prouvez d'ailleurs qu'on peut voyager loin sans prendre l'avion, parce que 9000 kilomètres parcourus en 90 jours, vous avez traversé 16 pays. Ça a dû être une aventure complètement incroyable, Guillaume Funk.
Ouais, effectivement. Ben, en fait, le but de partir à vélo, c'était d'une part pour des raisons écologiques, parce que j'essaye de plus prendre l'avion, mais aussi de découvrir tous les pays, toutes les cultures et les paysages qu'il y a entre. Ah. Je pense que ça a été plutôt réussi, parce qu'il y a eu des tonnes d'aventures en tout genre, et c'était vraiment l'aventure d'une vie.
Alors, vous êtes passé, entre autres, hein, par l'Italie, la Croatie, l'Albanie, la Turquie, un petit bout en Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Chine. Vous avez dû avoir l'impression de vivre plusieurs vies en 90 jours. Le passage en Russie, ça n'a pas été trop compliqué?
Mais non, enfin, il a fallu obtenir le visa, ça prend quand même un petit moment. Mais après, j'avais 3 jours pour traverser la Russie, sur mon visa durait 3 jours. Donc c'était un peu la course. Mmh. Mais sinon, les gens étaient super accueillants. Mais c'est quand même un peu bizarre de passer dans un pays en guerre qui n'est pas forcément un pays allié. Mmh. Donc c'est sûr qu'on ne se sent pas forcément hyper à l'aise quand on croise des militaires ou des policiers. Quoi.
Ouais. Et le Tadjikistan, quel souvenir? Le Tadjikistan, je crois que c'est un des pays qui vous a le plus marqué.
Ouais, ben en fait le Tadjikistan, j'étais quasi arrivé et en arrivant dans les grosses montagnes, j'ai eu un peu des soucis avec la météo, avec mon téléphone, avec mon vélo, et du coup c'était un peu la galère, d'autant que les routes là-bas c'est pas du tout la même chose que chez nous, alors que ça c'est des axes stratégiques entre la Chine et le Tadjikistan. Mmh. Et du coup ça a été compliqué niveau moral et niveau mental, mais aussi sans doute les paysages les plus beaux au milieu du Pamir avec des montagnes complètement incroyables.
Ouais, et vous voilà donc arrivé dans ces montagnes aussi incroyables du Pakistan pour faire du parapente. Votre but, hein, c'est de faire des vols très longs, ce que vous appelez des vols bivouac dans ces montagnes, c'est-à-dire en plusieurs étapes, hein, avec des pauses pour bivouaquer et que les vols durent plusieurs jours. Vous avez déjà fait un vol de plus de 6h30 depuis que vous êtes arrivé. Racontez-nous là en 30 secondes ce que l'on voit, ce que l'on ressent lorsque l'on fait du parapente au-dessus de ces montagnes gigantesques du Pakistan.
Ouais, ben en fait, ce qui est assez marquant, je trouve, dans ces montagnes ici, c'est à quel point il y a des montagnes à perte de vue dans toutes les directions. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les Alpes. Même quand on monte très haut, on a toujours un petit bout de plaine qui pointe. Ici, on a vraiment à des centaines de kilomètres à la ronde des montagnes dans toutes les directions. Et puis aussi, lors de ce vol-là, on voyait très bien le Nanga Parbat, qui est le 9e plus haut sommet du monde, à 8100 et quelques mètres, et qui dépasse au-dessus des sommets aux alentours qui sont à 4-5 000 mètres et qui les font passer pour des collines.
Ouais, c'est ça.
Et, donc c'est vraiment des paysages un peu lunaires et complètement... complètement fou qu'on n'a pas forcément chez nous.
Et quand vous ne volez pas, et bien évidemment, vous attendez les conditions météo pour que ça se passe bien. Et l'accueil des Pakistanais dans ces montagnes, voilà, vous bénéficiez d'une hospitalité incroyable.
Ouais, effectivement. Mais ça, c'est sans doute le truc qui est le plus marquant ici. C'est le Pakistan n'a pas forcément un bon a priori en Europe. Et en fait, c'est sans doute un des peuples les plus accueillants, les plus gentils. Les plus aidants que j'ai eu l'occasion de croiser. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est pas compliqué de rencontrer du monde. Il y a tout le monde qui vient à ta rencontre, demander tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est vraiment chouette.
Merci Guillaume Funk, c'était un plaisir de vous entendre, même si la liaison était un peu difficile. On peut suivre vos aventures sur votre page Instagram, que nous allons mettre en lien sur la page du Temps d'un Bivouac. Nous allons aussi mettre en ligne des photos de ces montagnes que vous avez prises depuis votre parapente. Elles sont superbes. Merci à vous et que les vents vous soient favorables. Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.